Bien. Eh bien, ce soir, on rentre dans la première étape après avoir fait deux sessions sur l'introduction, deux soirées. Ce soir, nous allons entrer dans l'étape numéro 1. C'est une étape qui constitue déjà une bonne base de départ puisqu'elle nous demande de reconnaître que nous avons besoin de guérison. Nous avons besoin de délivrance, nous avons besoin de progresser, nous avons besoin de comprendre les vérités spirituelles. Et évidemment, chacun de nous, nous sommes tous différents, mais chacun a besoin du Seigneur. Chacun a besoin de grandir. Il y a des gens qui arrivent ici et peut-être qui ne connaissent peut-être pas trop le Seigneur. Il y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés. Il y a des gens qui ont plus d'ancienneté avec le Seigneur. Mais quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience, nous avons besoin de Dieu. Et cette première session va nous mettre un petit peu à l'épreuve parce qu'elle va nous amener à reconnaître notre besoin du Seigneur dans notre vie. Il faut comprendre que le Seigneur ne peut rien faire sans qu'on lui demande. Si tu es là, mais que ton cœur n'est pas ouvert pour recevoir quelque chose parce que tu as un besoin spécifique, tu as un besoin de lui, alors sans doute qu'il ne se passera pas grand-chose. Mais si tu viens avec un cœur sincère, un cœur humble, un cœur qui dit Seigneur, j'ai besoin de toi, alors attends-toi à la grâce de Dieu. Amen. Nous avons vu, je ne peux pas revenir sur tout ce qu'on a vu, mais je voudrais juste mettre en évidence la réalité de cette terre, de ce qui se passe sur cette terre. On a beaucoup passé de temps sur l'impact du péché dans notre vie, dans la vie de l'être humain. C'est-à-dire la capacité de faire du mal, la puissance qu'il y a dans chaque être humain pour faire du mal. Et malheureusement, on a tous été logés à la même enseigne de ce côté-là, puisque tout le monde est né dans le péché. Et ça, c'est le problème numéro un de l'être humain, c'est qu'il n'a pas la capacité par lui-même de s'en sortir. Il n'a pas la capacité par lui-même d'être au-dessus de cette puissance du péché. Et donc, ça fait que tous, eh ben, nous avons en nous cette capacité à faire le mal. C'est une petite désolation, c'est une petite tristesse, mais c'est une réalité et on doit composer avec cette réalité-là. Mais c'est une réalité qui nous amène à ne pas être naïfs sur cette terre. Parce que comme on va le voir dans ces prochaines diapos, on est appelé à aimer dans la réalité de ce monde difficile, injuste, où nous avons besoin des uns des autres et en même temps, on est capable de se blesser dans ce monde où nous avons besoin des uns des autres. Vous comprenez la difficulté de vivre sur cette terre? Avoir besoin des uns des autres et en même temps être dans cette difficulté où on peut être blessé par les uns, par les autres, et nous-mêmes, nous pouvons blesser les autres. Donc, c'est cette réalité dans laquelle nous avons besoin du Seigneur et nous avons besoin d'être équipés, équipés spirituellement, équipés dans notre manière d'agir, dans nos conceptions. On a besoin d'être équipés pour savoir comment agir, comment réagir dans ces relations si compliquées. Donc dans Genèse 6,5, on a vu que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est une réalité. L'être humain, foncièrement, à cause du péché, a des pensées qui se portent vers le mal. C'est une réalité. Et dans Genèse, un peu plus loin, 8, 25, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. On est né dedans. Donc l'enfant, il a déjà cette méchanceté en lui. Mais pour nous qui avons donné notre vie à Dieu, pour nous qui sommes dans le Seigneur, ce n'est plus notre cas. Ou en tout cas, ça ne devrait plus l'être. On a cette connaissance de cette difficulté du mal qui nous enchaîne, mais nous avons donné notre vie à Dieu et le Seigneur a ôté le péché du monde dans notre vie. Et le Seigneur a cette capacité d'ôter le péché qui était sur nous et qui nous rendait prisonniers. Et donc, Nous avons été choisis par Dieu, mis à part, nous avons reçu l'Esprit Saint, nous avons été purifiés par le sang de Jésus, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Jésus-Christ. Amen. C'est la seule façon de pouvoir s'en sortir, de ne plus être sous l'influence du péché. C'est de donner notre vie à Dieu, parce que c'est lui, par sa puissance, qui va pouvoir diriger notre vie. Amen. Nous ne pouvons plus nous comporter de la même manière. En venant à Christ, il y a eu un avant et il y a un après. Là, les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Amen. Et là, il y a vraiment une scission. Et on est appelé maintenant à ne plus jamais lâcher la main de Dieu pour ne plus retomber sous la puissance du péché. La clé, elle est là. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15. C'est cette réalité que je ne suis plus un indépendant, mais je suis un dépendant de Jésus. Amen. Et c'est sous cette puissance, sous cette direction de Jésus, cette puissance du Saint-Esprit, que je vais pouvoir aimer mes frères et sœurs, que je vais pouvoir aimer mon prochain. Parce que ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons aimer les autres comme Dieu les aime. On peut aimer d'une certaine manière, avec des conditions, avec des limites. Hein, alors que Dieu nous appelle à aimer les uns les autres, et derrière, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas à condition qu'il te fasse du bien, à condition qu'il soit gentil avec toi. Aime ton prochain tant qu'il est gentil avec toi. Non, il n'y a pas ça. C'est aime ton prochain. Et derrière, il n'y a pas de condition. Quand il est méchant, la condition, ça ne change pas. Aime ton prochain quand il est méchant. Aime ton prochain quand il ne t'aime pas. Aime ton prochain quand il t'a été infidèle. Et ça, là, on ne peut pas le faire par nous-mêmes. On peut le faire que si on est sous la puissance du Saint-Esprit. C'est dans ce sens-là qu'on ne peut rien faire sans le Seigneur. On ne peut pas obéir à ses commandements sans le Seigneur. Mais avec lui, tout est possible.
Amen.
Amen. Nous avons besoin d'opérer une véritable révolution dans nos conceptions si nous voulons vraiment nous emparer du royaume de Dieu. Le Seigneur est venu avec des promesses pour chacun d'entre nous. Des promesses que l'on trouve dans la Bible, où il nous a assuré que nous aurons cette vie en abondance, que nous aurons cette liberté d'aimer. Il nous l'a promis. Ce sont les promesses de Dieu. Mais pour s'emparer de ces promesses-là, il y a des conditions. Et les conditions ne peuvent pas se mettre en place dans notre vie si nous ne prenons pas conscience que nous avons besoin de changer nos conceptions, nos façons d'agir, nos façons de penser. On ne peut plus penser comme on pensait avant. Et c'est tout ça qui va se mettre en place. Cette nouvelle créature, c'est une créature qui ne pense plus comme avant, qui ne fonctionne plus comme avant, qui n'agit plus comme avant. Parce que je l'ai marqué un peu plus loin, ça me vient là à l'esprit. Mais vous savez, le début de la folie. Vous savez ce que c'est le début de la folie ? Le début de la folie, c'est de croire que je vais faire toujours les mêmes choses et que je vais obtenir un résultat différent. Ça va ? C'est la folie. Je continue à vivre comme je vivais, mais je vais avoir un résultat différent. C'est la folie. Tu auras un résultat différent si tu changes ta manière d'agir, ta manière de parler, ta manière de penser. C'est une évidence, mais encore faut-il en avoir conscience. S'il n'y a pas de changement dans ta vie, excuse-moi, mais il n'y aura pas de changement dans les conséquences. Et tu passeras à côté des promesses de Dieu. Nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres des uns des autres. En Christ, nous sommes tous membres des uns des autres. C'est une réalité spirituelle. C'est une réalité du royaume. Vous comprenez ? On est frères et sœurs. Et nous formons un seul corps. Déjà, rien que ça, pour l'accepter, pour le comprendre, pour le vivre, ça demande un changement de mentalité. Ma seule famille, moi, avant,
Eh bien, c'était ma sœur Marilène, c'était ma mère Georgette et mon papa Jean. C'était ma famille. Mais dès que je viens à Christ, ma famille, elle a changé. Ma famille en Christ, c'est vous. C'est vous, ma famille en Christ. C'est un miracle. C'est une conception complètement différente. On ne se connaît pas. Et on est frères et sœurs. C'est ça, mais c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'on va quitter ce monde un jour. On va se retrouver auprès de Dieu. Et on sera ensemble. Vous auriez dû dire éclater un gros amen, je vous assure. Je vous ai laissé une chance, mais je la refais. Un jour, on va quitter cette terre. On sera tous avec le Seigneur. Et on sera ensemble.
Amen.
Oh, c'est pas mal. C'est mieux. Ne jamais perdre l'objectif. Ouais, le problème, c'est que la route, elle est longue. Le chemin, il est long. Ne jamais perdre l'objectif. C'est ce que Jésus a rappelé au docteur de la loi. Quand le docteur lui a dit, un peu machinalement, comme nous, on peut le faire des fois, parce qu'on connaît des versets par cœur, et le docteur, Jésus lui a dit, mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi pour que tu aies cette vie éternelle, pour que tu aies ces promesses que Dieu t'a données? Ah ben, il connaît par cœur le verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, toutes tes pensées. D'abord, placer Dieu en premier, aimer Dieu, et toutes nos réactions, maintenant, vont se faire par rapport à Dieu. Nos conceptions vont se faire par rapport à Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez le changement. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as 30 ans, pendant 30 ans, tu as vécu avec la mentalité de ce monde, avec la manière de penser de ce monde, comme le monde conçoit les choses. Et tu viens à Dieu, et là, il y a tout un univers qui s'ouvre avec des conceptions complètement différentes. Tu vois ? Comme on disait cette semaine avec une sœur, peut-être que jusqu'à 30 ans, tu as vécu et tu as construit ton identité avec ce que le monde t'a renvoyé, avec les conceptions du monde. Comment tu t'es senti, traité ? Comment tu as vécu ces 30 ans ? Avec de l'injustice, avec de l'abandon, avec du rejet, avec toutes sortes de blessures, de l'humiliation. Tu as vécu tout ça et tu as créé ton identité par rapport à cette réalité. Mais quand tu viens à Christ, le Seigneur dit sur toi la vérité, que tu es une merveilleuse créature et que ce ne sont pas les choses qui te sont arrivées ou que les êtres humains t'ont fait subir. Ce n'est pas ça qui détermine qui tu es. C'est ce que Dieu dit qui détermine ce que tu es. Et quelquefois, et même la plupart du temps, il va y avoir, je vais vous sortir un mot savant, une dichotomie. Une dichotomie, c'est deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Donc, moi, j'ai 30 ans. J'entends des choses sur moi depuis 30 ans, que je suis un bon à rien, que je suis un accident, que mon père n'a jamais eu le temps de s'occuper de moi, que patati et patata et couffin. OK. Et puis, j'arrive à Dieu. Et là, j'entends que je suis une merveilleuse créature. Ça fait dichotomie. Les deux conceptions se heurtent. Et là, je suis perdu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis une belle créature. Une merveilleuse créature. Et puis, j'apprends que Dieu a toujours eu un plan pour moi, que je ne suis pas une erreur, que je suis né parce que c'est la volonté de Dieu. Et qu'avant que Dieu ait créé ce monde, il avait déjà une pensée pour moi. Il savait que j'allais venir sur cette terre. C'est révolutionnaire. Là, tout d'un coup, je dis, mais papa et maman, finalement, c'est pas grave que ça soit un accident. Pas grave, papa et maman. Je vais pouvoir leur pardonner assez facilement, finalement, parce qu'au final, c'est pas eux qui ont décidé. C'est Dieu qui a décidé que je sois là. Et chacun de vous, c'est Dieu qui a décidé que vous soyez là. Amen. C'est merveilleux. Ça change tout, ça ouvre des opportunités extraordinaires. Mais, évidemment, pour cela, il faut mettre Dieu en premier, Dieu dans toutes nos pensées, Dieu dans tout notre cœur, toute notre âme, avec cette pensée, je suis le chemin, la vérité, la vie. Waouh ! C'est Jésus qui a la vérité. Ma vie a été montée sur des mensonges, parce que mes parents croyaient des mensonges. Et que cette société n'est pas en phase avec la parole de Dieu, avec ce que dit Dieu. Donc, la société est bâtie sur un mensonge. Et que moi, jusqu'à mes... Alors, moi, ça a duré plus que 30 ans. Hein, mais disons, prenons 30 ans. Et bien, jusqu'à 30 ans, je me suis fabriqué. J'ai fait mon identité. Je me suis défini par rapport à toutes ces erreurs-là. Waouh ! Et comme je disais à Alain ce midi, il faut que je change le narratif de ma vie. Le narratif de ma vie doit changer. Parce que maintenant, je dois mettre le narratif de Dieu dans ma vie. Plus le narratif de mes parents, de mon professeur à l'école, de mes copains, de tout ce que j'ai pu subir sur cette terre et qui a construit ma vie, qui a construit mon narratif. Et bien tout ça, je dois faire un reset de tout ça parce que ce n'est pas la vérité. Je suis, mon narratif maintenant, je suis une merveilleuse créature. Amen. 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 Je suis désiré. J'ai été désiré par le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, quand je vais quitter cette terre, je sais où je vais aller. Amen. 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 Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Et là, le Seigneur lui rappelle ça. Parce que donc, il dit, je vais aimer Dieu de tout mon cœur, toute mon âme, tout mon esprit, toutes mes pensées. Et mon prochain comme moi-même. Mais Jésus lui dit, fais cela. Fais cela et tu vivras. C'est-à-dire, le verbe vivre, on l'a vu, hein, c'est la vie éternelle. C'est cette puissance qu'on reçoit de Dieu. C'est une vie, c'est la vie de Dieu en nous. C'est extraordinaire. Parce que là, tout d'un coup, c'est une puissance qui vient en nous. Et là, où par exemple, mon cas présent, je ne connaissais pas l'amour parce qu'il n'y avait pas d'amour dans le foyer où j'étais. Et là, tout d'un coup, je reçois une dose d'amour, mais incroyable. Une dose d'amour que j'aurais jamais imaginée. Et là, je dis, waouh, c'est comme un shoot d'amour. Amen. Tiens, ah, c'est bon. Et là, là, tu reçois la parole de Dieu. Et là, tu n'as qu'une envie, c'est de venir réécouter parce que tu dis, mais il y a un truc là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... Et on entend les gens dire, eh mais j'ai été touché. Ben oui, en plein cœur. En plein cœur. Tu as reçu la dose d'amour qui te manquait. Cet amour qui vient de Dieu. Et pourquoi ça nous manquait tant? Ben parce que c'est notre créateur. Et la créature a reconnecté avec son créateur. Waouh! J'ai entendu la voix du bon berger. Et j'ai dit, waouh, il se passe quelque chose ici. Là, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc. Et Erland, c'est quand la prochaine réunion, là? Mardi, 18h. Ok, mardi. Mardi, 18h, le gars dans son bureau, il est là. Oh, ce soir, il y a la réunion. Waouh, j'y vais. Je connais rien, je comprends rien. Mais j'y vais. Parce que il y a le bon berger qui m'attend. Amen. Alléluia. Fais ça et tu vivras. Ne pas perdre de vue l'objectif. Aimer. C'est simple. Aimer de l'amour de Dieu. Et on va voir tout ça pendant ces différentes sessions, ces différentes soirées. On va voir qu'on ne perdra jamais de vue l'objectif d'aimer. Avec cette puissance de Dieu. C'est là qu'on aura la paix. C'est là qu'on aura la liberté. C'est une vraie liberté. C'est une vraie décision de notre part. On reprend notre vie en main. Tant que je ne connaissais pas le Seigneur, l'amour que j'avais pour les autres était conditionné à leur réaction. Je n'étais pas maître d'aimer. Parce que j'aimais, mais quand ça n'allait plus, j'aimais plus. Mais c'est pas moi qui avais décidé. C'est parce que l'autre a mal agi avec moi, ou que moi j'ai mal agi avec lui, mais je le vois pas, que j'aime plus. Or là, cette liberté que je vais avoir avec le Seigneur, c'est la liberté d'aimer. Et c'est pas l'autre qui décide, c'est moi qui décide. C'est ça le sens d'aimer ses ennemis. C'est que, non, je décide d'aimer. Alors évidemment, je ne vais peut-être pas prendre un petit café avec le croissant tous les jours avec cette personne-là. Vous comprenez? Ce n'est pas un amour d'affinité. Mais c'est que dans mes pensées, dans ma façon de concevoir, je vais continuer à l'aimer. Amen. Mais ça ne veut pas dire que je vais avoir forcément des affinités avec elle. Vous comprenez? On n'est pas dans l'amour philéa. On est dans l'amour agapé. Ça change tout, c'est l'amour de Dieu. Mais c'est ce qui va faire que la porte de mon cœur va rester fermée à toute espèce d'offense, à toute espèce d'amertume. Je n'ouvre pas la porte de mon cœur à l'amertume parce que je continue d'aimer.
Amen.
Amen. C'est ça l'équipement, c'est ça la clé. La clé, je prends des claques, c'est pas juste, c'est pas normal. Mais ça, on l'a vu, c'est la vie. Arrête avec ça, fais la paix avec ça, parce que ça, ça changera pas. La terre est sous la puissance du malin. Et le péché agit comme il veut, de différentes manières, en utilisant les personnes qu'il veut. Mais il y a les personnes que tu t'y attends le moins. Et oui, parce que j'ai tellement fait pour elle. J'ai tellement fait pour cette personne-là. Et voilà le résultat. Ouais, mais c'est fini. Accepte ça. Par contre, te fais pas piéger. Te fais pas piéger. Continue de l'aimer avec l'amour de Dieu. Pas avec ton amour, parce qu'il ne doit plus rester grand-chose dans le réservoir pour elle. Hé, prends l'amour de Dieu. C'est une source intarissable. Et ne viens pas polluer ton cœur. Mais tu lui dis gentiment, tu lui dis, écoute, on s'est pas entendu, ok, on a eu un problème, mais sache que moi, je continue de t'aimer parce que tu es mon frère, parce que tu es ma sœur, et qu'on est le même corps. On est le même, et qu'on se retrouvera là-haut. Comprenez ? Le même corps, c'est une vérité. C'est une vérité. J'ai perdu. Je reviens dessus. Là, c'est une vérité spirituelle. Nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres des uns des autres. Est-ce que je peux me permettre de dire à mon corps, « Oh, toi, tu m'as fait mal, bah, tiens, disparais. » Mais non, je vais mourir moi-même. Il va me manquer un truc. Comprenez, cette réalité spirituelle, elle est là. Ça fait partie de mon corps. Je n'ai pas choisi, moi. C'est Dieu qui a choisi pour moi. Pas choisi. Mais c'est comme ça. Et je dis, « Seigneur, tu me rends capable d'aimer. » Et d'aimer de cette manière-là, c'est une puissance. De ne pas être atteint par l'offense de l'autre. En fait, réaliser une chose. La personne qui est en face de moi n'a plus de pouvoir sur moi. Elle n'a plus le pouvoir de nuisance. Parce que j'ai décidé de l'aimer. J'ai coupé son pouvoir. Et l'ennemi, il peut mordre la poussière. L'ennemi, il n'avait qu'une envie. C'est que lui, il vienne dans mon oreille. Et puis, il me dit, ouais, c'est pas normal ce qu'elle a fait là. C'est pas normal ce qu'elle a dit là. Mais non, t'as raison, allez, vas-y, venge-toi. Ça, c'est l'ennemi, ça. Et puis, des fois, nous, on est tellement blessés qu'on dit, ouais, c'est vrai, je vais y aller aussi, comme tu dis. Ça, c'est le piège. La vérité, c'est que nous, on est appelés à aimer. Et les premiers bénéficiaires, c'est nous. Tombez pas dans le piège de dire, quoi ? Avec tout ce qu'elle m'a fait, et en plus, je dois continuer à l'aimer. Non, mais il faut pas exagérer, quand même. Là, l'ennemi, il va te dire ça, tu vois. Mais en fait, c'est pour protéger ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui coulent les sources de la vie. Tu veux quand même pas que les sources de ta vie se tarissent à cause de l'autre qui t'a fait du mal. C'est la double peine. Il m'a fait du mal, et maintenant j'ai de l'amertume qui va fermer les sources de ma vie, de mon cœur. Mais non! Dit, Seigneur, ok, il arrive un problème, il y a du 50-50, parce que si on enlève le déni, on a tous notre part, ok? Mais Seigneur, donne-moi la capacité de continuer à aimer mon frère, ma sœur, même si je ne vais plus la fréquenter comme avant, parce que, voilà, et puis peut-être qu'un jour ça se remettra, qui sait? Mais en tout cas, voilà, je prends une décision, et ma décision, c'est d'aimer coûte que coûte. Amen! Vous n'êtes pas trop... Bon, c'est pas grave, ça va venir. Donc, on avance. Et donc, comme on suit ce que Jésus a dit au docteur de la loi, tu aimeras les trois directions sur lesquelles on va passer nos 3 mois, c'est-à-dire aimer Dieu, nous aimer nous-mêmes. Parce que comment on peut aimer notre prochain si on s'aime pas ? Aime ton prochain comme toi-même. Bah, si je m'aime pas, ça va être vite fait pour le prochain. Ah oui, il n'a pas de chance avec moi. Non, il faut d'abord s'aimer, mais pas dans le sens s'aimer avec son nombril. Et puis moi. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est d'avoir une bonne conception de soi parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et qu'on a besoin d'être restaurés parce que ce monde ne nous a pas fait de cadeau. Et que donc on a besoin de pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Comme on l'a vu la dernière fois, de vider notre placard des squelettes du passé. faire le grand ménage dans la maison pour qu'il n'y ait plus qu'à épousseter. Un petit peu de ménage tous les jours, mais plus ce grand ménage qu'on va faire pendant les 3 mois, qui va nous coûter, mais on le fait qu'une fois.
Ouais.
Une fois qu'on l'a fait, si on l'a bien fait, si on a bien nettoyé, ben c'est comme une maison. Hein? Si on a bien nettoyé la maison, normalement elle est propre.
Hein?
Ouais, mais là, il n'y a pas de femme de ménage, c'est toi la femme de ménage. Et après, tous les jours, ben, tu passes le chiffon. Parce qu'évidemment, ça ne s'arrête pas là, ça serait trop beau. On est quand même dans ce monde difficile. Donc tous les jours, ben, tu prends ton petit chiffon et puis tu viens nettoyer là où il y a besoin de nettoyer. Et là, tu vas voir comment tu vas être beaucoup plus légère, comment tu vas apprécier la vie parce que tu n'es plus piégé par ce poids que tu menais sur toi. Parce qu'il y a toutes ces années-là qui sont là sur toi et que tu n'as pas su nettoyer, que tu n'as pas su t'équiper pour pouvoir affronter tout ça et tu n'as pas su comment nettoyer tout ce passé-là qui est venu te pourrir ta vie. On ne veut pas que notre passé vienne pourrir notre présent. Tu n'as pas compris ? Nous ne voulons pas que notre passé vienne pourrir notre présent. Ah. Ouais, moi, je ne veux pas en tout cas. Aimer n'est pas une option. Encore une vérité spirituelle. Aimer n'est pas une option. 1 Jean 4,8 dit ceci. Celui qui n'aime pas son prochain, celui qui n'aime pas son prochain, n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. C'est une réalité spirituelle. Si tu dis que tu n'aimes pas ton frère, tu n'aimes pas ta sœur, la Bible est claire là-dessus, je suis désolé, elle te dit, mais tu ne connais pas Dieu. Et tu ne peux pas dire, moi j'aime Dieu. Moi, j'aime Dieu, mais alors, par contre, les chrétiens, excuse-moi, mais voilà, ras-le-bol. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas ne pas aimer son corps si tu aimes Dieu. Jésus est la tête et nous sommes le corps. Et donc, tu ne peux pas, toi, ne pas aimer tes frères et sœurs et dire « j'aime Dieu ». Ça ne marche pas. De la même manière, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas l'Église et que tu aimes Jésus parce que tu vas avoir des problèmes. Tu sais pourquoi tu vas avoir des problèmes? Parce que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Moi, si tu m'aimes pas, si tu n'aimes pas ma femme, il n'y a pas beaucoup de chances que tu viennes avec moi et qu'on partage des choses. Tu comprends?
Amen, hein? Je dis amen.
Tu dis amen. Amen. Donc, si tu aimes Jésus, mais que tu n'aimes pas son épouse, ça ne va pas le faire.
Moi, jamais. Amen.
Et tu aimes son mari alors? Notre nouvelle nature, c'est d'aimer. Vous comprenez? Réalisez une chose. Dieu est... Allez! Mais vous dormez ou quoi? Dieu est amour. Amen. Bon. Et nous avons été faits à... Ah, ça y est, vous êtes réveillés. C'est pas mal. Donc, nous sommes amour. Ah oui! On a été fait à l'image de Dieu qui est amour, donc c'est pas compliqué ça. Hein. On est amour. Nous avons été créés pour aimer et être aimé. Vous comprenez ça? Celui qui est dans l'amertume, qui n'aime plus, il n'a plus de vie. Il est mort. Oui. On est fait pour aimer et être aimé. Donc, c'est notre vraie nature. Mais en Christ, on a été renouvelé, on a été régénéré. Donc, on retrouve ce besoin d'aimer qu'on avait perdu à cause du péché. Quelles que soient les circonstances, aimer son prochain, pas aimer en fonction des circonstances. C'est la clé, elle est là. Vous comprenez? C'est qu'on n'a pas compris que aimer avec l'amour d'agapé, c'est pas aimer avec l'amour philéa. Vous comprenez? Ça vient du fait que nous, en français, on n'a qu'un seul verbe pour aimer. J'aime ma femme, j'aime mon chien, j'aime mon vélo. J'aime mon poisson, j'aime tout, mais tu vois, il n'y a pas de nuance. Or, en grec, il y a 4 verbes pour aimer. Tu vois? Et notamment, agapé, qui est l'amour de Dieu, qui est réservé à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, et nous, pauvres pécheurs, avec notre petit filaire, qui est bien limité. Tu vois? Et donc, quand on parle d'aimer, il ne faut pas qu'on ait peur. Parce qu'on pourrait dire, aimer tout le monde, aimer... Non, tu n'as pas compris. C'est Dieu qui habite en toi et qui te donne la capacité d'aimer. C'est Romains 5,5. Hein, l'amour de Dieu est répandu en toi. Elle est répandue en toi par son esprit. Donc, t'inquiète pas. La source, elle n'est pas près de tarir. Le robinet, il est ouvert à fond les gamelles. Et tu peux arroser. Il y a de la ressource. Elle ne se tarit pas. Donc, n'aie pas peur d'aimer. Tu ne vas rien perdre. Ce n'est pas ton amour. C'est l'amour de Dieu qui coule en toi. Mais c'est simplement nous, déjà, dans notre tête, de faire attention, dès le départ, d'avoir ces conceptions, de dire, oui, il pourra y avoir un problème avec un tel. Oui, il pourra y avoir un problème avec... Mais ça ne remettra pas en question l'amour que j'ai pour lui. L'amour de Dieu que j'ai pour lui. La nuance, elle est là. Parce que sinon, on va faire du yo-yo et on va aimer quand ça va bien. Ah, ça va plus, j'aime pas. Ah, ça va, j'aime. Ah, ça va plus, j'aime pas. Si vous transposez ça dans un couple, eh ben, le couple, ça va être la tempête à fond les gamelles. Quand on est le creux de la vague, là, je te dis pas, là. Puis après, on remonte, ah, ça va mieux. Oh, ça va plus bien. Oh, on va rattraper le mal de ventre ou le mal de mer. Non, on aime avec l'amour de Dieu. Parce que c'est une décision et elle ne fait pas référence à nos sentiments. Elle ne fait pas référence aux circonstances. Elle aime en tout temps. Et c'est ce qu'on a besoin de comprendre. Parce que sinon on, dans l'Église, aucune Église va résister. Aucune Église va résister. On sera une Église, mais on sera une Église pauvre. Parce que il n'y aura pas cet amour qui a décidé d'aimer. Et alors, c'est une église charnelle. Elle ne vit qu'en fonction de si les gens sont gentils, si ça se passe comme je veux, si les gens ont fait comme moi j'aurais fait. Mais on va où avec ça? On ne fait plus rien. Il ne faut plus rien faire. Il faut juste venir au culte et puis rentrer à la maison. Parce que sinon, comment on va vivre? C'est ce que Paul a expliqué à Corinthe. Regardez dans les premiers chapitres de Paul à Corinthe, il dit « J'ai pas pu vous donner les vérités spirituelles. Vous étiez au lait, vous étiez des nourrissons. » Parce qu'ils se disputaient entre eux. « Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Paul. » Ils n'avaient rien compris. Ils étaient charnels. Ils voulaient avoir raison. Ils n'ont pas compris. Mais on est appelé à être cette église qui aime et pas en fonction que si tout va dans mon sens. Mais ça demande une certaine maturité. Les gens qui ne comprennent pas ça, je ne veux pas les juger, mais malheureusement, il faut qu'ils grandissent parce qu'ils sont au petit lait, comme dit Paul. Vous êtes encore des nourrissons. Je pouvais pas vous donner de la viande solide, de la nourriture solide, des vérités spirituelles. Je pouvais pas. Vous auriez été incapables de les comprendre. Vous étiez incapables de les recevoir parce que vous étiez obtilés. Et une église qui est obtilée, c'est une église dangereuse. Parce que le feu peut prendre à n'importe quel moment. Et là, je plains le pasteur. Parce qu'il faut colmater. Comme le bateau, tout d'un coup, il y a des fuites un peu partout. Alors, niveau 2, il y a une fuite. Hop, alors, niveau 3, il y a une fuite. Et là, je te dis pas, au bout d'un mois, le pasteur, il demande à partir, quoi, parce qu'il n'en peut plus, le gars.
15 jours.
Donc, aimer, quelles que soient les circonstances, j'espère que vous comprenez ça, c'est fondamental. Ok ? On est appelé à aimer. On ne peut pas remettre en question l'amour pour l'autre, parce que c'est une question de vie ou de mort spirituelle pour nous, pour celui qui subit ça. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas se permettre d'être charnel et puis de trouver une camarade, trouver un frère, trouver un sœur, puis raconter ça et puis dire, tu te rends compte, remarque comment on m'a traité, regarde, oh, je te comprends, et puis on y va, et puis vas-y. Et puis là, tu ouvres la porte de l'amertume, de l'offense. Là, tu te mets en danger. Non, il faut apprendre à souffrir pour le Seigneur. Même si on n'aime pas ça. On apprend à souffrir pour le Seigneur. C'est là qu'on sera heureux. Il va y avoir un fruit. Il va y avoir un fruit qui va faire que tu as réussi à garder ton cœur. Et là, tu peux continuer à aimer. Mais c'est toi qui en bénéficie. Amen. Ça va?
Amen.
Vous êtes d'accord?
Amen.
Je ne vous choque pas? Bon, c'est bon. Avoir toujours les sentiments de Christ en nous. Avoir toujours, pas quelquefois, pas quand ça va bien. Non. On pourrait mettre avoir toujours, quand ça va mal, les sentiments de Christ. C'est pas mal, ça serait pas mal comme phrase. Avoir toujours, même quand ça va mal, les sentiments de Christ. Et là, peut-être quelqu'un est en train de me dire, il est malade ce gars. C'est pas possible ce que tu dis. Je dis si, parce que c'est Christ qui vit en nous. Encore une fois, ce n'est pas nous qui faisons l'effort. Nous, c'est juste acquiescer dans la volonté de garder la paix. C'est juste dire à Dieu, Seigneur, garde-moi. Seigneur, je veux continuer à aimer ma sœur, à aimer mon frère. C'est tout. Le reste, c'est Dieu qui fait en toi. Parce que tu es le sarment, il est le cep. Et donc tu es relié à Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu de paix, c'est le Dieu de consolation, c'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu de l'unité. Et donc si tu es greffé à Dieu, ben, tu vas aussi recevoir l'unité, tu vas aussi recevoir l'amour, tu vas aussi recevoir la paix. Sa sève, elle coule en nous. Vous comprenez ça? Donc ce n'est pas une question de dire, c'est trop dur, hein. C'est trop dur, franchement, ce que tu demandes, c'est trop dur. Non, ce n'est pas trop dur, c'est juste une soumission à Dieu. Soumission à la puissance de Dieu. C'est lui qui agit en nous. Amen.
Excuse-moi, ça peut être dur, mais si on le veut, on a décidé, Dieu nous aidera.
Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Amen. Merci, Arlon. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui peut espérer, qui a le pouvoir de nous séparer de cet amour? Qui? Serait-ce les épreuves? Serait-ce les offenses? Est-ce que c'est les injustices qui vont nous séparer de cet amour de Christ? Non, on dit non, on ne tombera pas dans le piège. Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car nous avons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances diaboliques ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ça la vérité spirituelle. On ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. Personne. Pas l'offense. Pas les épreuves. Pas les injustices. Non. Ça ne marche pas. Et en tout cas, c'est notre rôle. C'est notre appel de résister. De ne pas tomber dans le piège. Alors peut-être que vous me trouvez dur, radical. Mais c'est parce que je ne veux pas que l'ennemi triomphe sur vous. Je ne veux pas que l'ennemi ait le dessus sur vous. Il va essayer. Vous inquiétez pas, c'est son rôle. Il va essayer. Il rôde comme un lion rugissant, sachant qui il va dévorer. On le connaît. Si on connaît ses desseins, si on connaît sa façon de faire, alors on va être plus fort. Et on va juste lui dire, tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Et pourtant, il va faire fort. Il va faire fort. Vous savez comment il va faire? Je vous l'ai déjà expliqué. Il va prendre la personne sur laquelle vous vous attendez le moins. Pourquoi? Parce qu'il faut l'effet de surprise. S'il n'y a pas l'effet de surprise, ça ne marche pas. Si vous vous y attendez, bah c'est trop facile, vous allez démasquer le plan. Non, non. Il y a un serpent. Il avance à pas bris. Comme ça, discrètement. Il pose ses pions. Tac, tac. Et toi, tu ne t'y attends pas. Il y a toujours un petit côté naïf en nous. Il y a toujours un petit côté bisounours. Non, ça, c'est mon ami pour la vie. Oh non, jamais elle me fera de mal. Un petit côté, des fois, un petit peu comme ça, un peu bisounours, tu vois. Et puis c'est bien, là tu es t'es une bonne une victime, là, tu vois. C'est-à-dire que là, au moment où tu dis ça, c'est là où tu es en danger. Tu vois. Parce que c'est là où il va frapper fort. C'est pas que l'autre qui t'aime veut te faire du mal. C'est que, malheureusement, elle n'est pas parfaite comme toi. Elle est imparfaite comme toi. Et il va se passer quelque chose et ça va venir te chercher là où tu t'y attendais pas et pas elle. Et là où ça va faire mal. Très mal. C'est là où il peut appuyer. Tu sais, c'est comme si tu as une plaie. Et puis, tu sais, dans les films, on voit là, le gars, il a une plaie. Puis l'autre, il arrive, puis il enfonce le poing dans la plaie. Puis...
On va
mais c'est ça. C'est ça. C'est que là, tu vois, ça fait mal. Oh, elle vient de faire mal. Et puis là, tac. Oh là, dans la Bible, il y a la flèche. La flèche du midi. Hein, tu vois, dans les psaumes, tire la flèche. Et toi, tu t'y attends pas, tout va bien, tranquille, la vie est belle. Puis là, tu reçois la flèche. Non ! Et là, tu regardes qui c'est qui te l'a envoyé. dit, non, pas elle. Mais oui. C'est David dans le psaume, il nous le raconte merveilleusement bien. Tu vois, il dit, non, si ça avait été quelqu'un d'autre, mais pas lui, pas mon frère. Tu sais, on montait ensemble à l'église, on allait au temple tous les deux, tous les jours, mais pas lui. Eh bien si, c'est lui. Oh! Alors, ce soir, on va rentrer dans cette étape en disant, nous avons admis que nous étions impuissants devant notre condition et que nous n'avons pas la maîtrise de notre vie. C'est la première base, c'est reconnaître, lâcher prise, reconnaître que, excuse-moi, mais tout seul tu t'en sortiras pas. Mettre notre orgueil à mal, rentrer dans ce chemin d'humilité, pour dire Seigneur, je reconnais, je regarde ma vie et franchement, j'ai essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Cabri et mon salade.
Comment?
On continue. Cette première étape nous confronte avec le délit. Ce que vous allez rencontrer ce soir, c'est le délit. Non, mais ça fait du bien, ça détend, tu sais, jeune. J'aime bien. Chut. Allez. Écoutez, reconcentrez-vous. Je vous ai perdu, là. C'est Johnny qui n'arrête pas de rigoler, là. Allez. Écoutez bien. Vous allez comprendre ce soir un phénomène qui nous piège tous. Ce phénomène, ça s'appelle le déni. Écoutez bien ce que c'est. C'est un processus intérieur par lequel les personnes prétendent à elles-mêmes et aux autres qu'elles n'ont pas tel ou tel problème. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est évident. Tout le monde voit le problème de la personne, sauf la personne. C'est ça le déni. Et t'as beau lui expliquer, elle ne veut rien savoir, parce qu'elle ne le voit pas. Et donc, elle va même s'énerver. Ça peut même mal finir l'affaire. Parce que si elle est susceptible, et elle va se fâcher. Donc, on est tous confrontés à ce problème-là. Souvent, le déni est totalement inconscient et ces personnes croient réellement qu'elles ne sont pas concernées. Lorsque les gens de leur entourage essaient de leur en parler, de leur faire remarquer que telle ou telle attitude est préjudiciable, mais elles ne reconnaissent pas. Et elles ont même jusqu'à se mettre en colère ou se fâcher. Vous voyez ? Par exemple, là, une pensée qui me vient. Vous voyez quelqu'un dans la famille, très proche de vous, et puis vous le regardez boire, et puis vous dites, oh là, il boit fort le gars là. Il a un petit problème d'alcool. Donc vous trouvez le petit moment, parce que c'est quelqu'un que vous aimez bien et tout ça, vous dites, oh, je vais quand même, ça m'inquiète quoi, je suis inquiet pour lui. Vous le voyez à côté, puis vous dites, mais ça va, t'as pas l'impression que ça y va dur sur la bibine? Et il va dire, non, j'ai pas de problème avec ça, je m'amuse, j'arrête quand je veux. Et à chaque fois que vous le voyez, vous voyez que le gars, il ne voit pas. Et quand vous commencez à en parler aux autres, ben les autres disent, ouais, t'as remarqué aussi, toi? Tiens, moi aussi, j'ai remarqué, dis donc. Voilà. Mais lui, il ne veut pas en entendre parler. Ouais. C'est le déni. Ouais. Alors, pour ne pas créer de conflit avec ces gens-là, les gens proches, c'est des gens proches. Donc, vous voyez, le problème du déni, c'est dans la famille. Le mari, la femme, les enfants, les parents, enfin l'univers assez proche, ben en fait, la personne ne change pas parce qu'elle ne voit pas le déni. Les autres voient. On va discuter avec la femme, elle va dire, ah non, mais mon mari, non, mais il est comme ça, lui. Non, mais il est comme ça. Et alors, ben non, j'essaie de lui en parler, mais il n'y a rien à faire, il ne faut rien entendre. C'est classique. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour ne pas créer de conflit à répétition? Les personnes proches, ben, ils finissent par laisser tomber, à être fataliste au regard de cette personne. Et cette personne va se retrouver avec une étiquette, on va lui coller une étiquette qui va la blesser quand elle va le découvrir que tout le monde pense ça d'elle, de lui. Ça, c'est des conflits dans les familles. Tu vois, on parle entre nous, on colle une étiquette sur la personne, mais chut, on ne parle pas parce que chut, si tu en parles, tellement susceptible que ça va mal se passer. Puis un jour, par inadvertance, elle apprend que tout le monde pense ça d'elle. Et là, ça explose. Et pour autant, rien n'est réglé. Sinon que des blessures qui ont pris place, mettant à mal les relations. Pour d'autres, leur dysfonctionnement est en partie conscient, mais elles ne prennent pas les mesures qui s'imposeraient pour éviter que cela ne se reproduise régulièrement. Ces dysfonctionnements sont bien souvent un poids pour elles-mêmes et pour les autres, et c'est bien souvent une source de conflit à répétition. Et là, on va retrouver un phénomène classique dans la vie d'une personne, ce qu'on appelle un confort désespérant ou un désespoir confortable. C'est-à-dire qu'ils ont fini par accepter leur dysfonctionnement, leurs limites, leurs problèmes. Ils ont fini par apprendre à vivre avec. Alors, ils ne sont pas heureux, mais comme ils maîtrisent, enfin, ils croient qu'ils maîtrisent à peu près la situation, donc on appelle ça un certain confort, et c'est ce confort-là qui les empêche de se remettre en question. Ils ont un confort, et qui ne les rend pas heureux, mais ils essayent de sortir la tête de l'eau le plus souvent possible. Et c'est un désespoir confortable, parce que malheureusement, on se satisfait de ça. Et là, on retrouve la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Le début de la folie, c'est de croire qu'en continuant, en faisant les mêmes choses de la même manière qu'on les a toujours faites, les résultats vont être différents. Okay. Lever la barrière du déni, capituler. Accepter que vos proches, quand ils vous disent des choses, analysez-les, méditez. Regardez s'il n'y a pas quand même quelque chose qui déconne là-dedans. Si on veut changer, si on veut être transformé, si on veut être disciple de Jésus, et moi je m'adresse ce soir à des disciples de Jésus qui veulent ressembler à leur maître, qui veulent progresser, qui veulent être heureux et qui ne veulent pas devenir des pierres d'achoppement pour leur famille, pour leurs proches, pour ceux qui les entourent. Et pour ça, il faut se corriger soi-même. Et le péché nous a tous touchés dans des sphères complètement différentes. Mais on doit commencer par le reconnaître. Sans reconnaissance, il n'y a pas de guérison possible. Si vous allez voir un médecin, et puis le médecin il vous dit « ça va, c'est quoi le problème ?» Ben, il n'y en a pas. Le médecin ne va pas comprendre. « Mais qu'est-ce que vous venez faire là ?»« Il n'y a pas de problème, je suis venu voir si tout allait bien. » Non, il faut comprendre que les 12 étapes, Dieu va guérir en vous toutes les parties que vous allez lui proposer. Mais si vous proposez peut-être un petit truc, « Seigneur, peut-être là, c'est vrai, il y a peut-être un petit truc, mais tout le reste, ça va. » Ben, le Seigneur va faire la petite partie qui va mal. Non, on va y aller tout doucement, mais un travail qui va se faire avec le Saint-Esprit pour regarder où est-ce que le péché vous a touché depuis que vous êtes petit, ce que vous avez hérité des parents, parce que malheureusement, ça se fait de génération en génération. On reçoit des héritages spirituels de génération en génération. Et tout ça, là, il faut mettre tout ça à jour. C'est ça le grand nettoyage. C'est ça le fait que là, je prends 3 mois pour nettoyer toute ma vie. Parce que je ne vais pas faire ça tous les 5 minutes. Ça va me coûter. Ça va être difficile. Il y aura des larmes. Il y aura des choses pas faciles à faire. Mais si je ne le fais pas, parce que je dis, oh, c'est pas grave, écoute, hein, pas pire qu'un autre, hein, ben malheureusement, tu vas trimballer ça toute ta vie. Tu vas te pourrir la vie et pourrir la vie des autres. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tu sois restauré, que tu sois rebâti et que tu sois heureux. Nos comportements non appropriés, nos réactions désagréables, nos paroles blessantes nous empêchent de vivre des relations apaisées auxquelles nous aspirons tous. Tant que le nettoyage n'est pas fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des feux en toi. Des feux d'injustice, des feux de rébellion. Il y a des feux de souffrance, de colère qui sont en toi. C'est l'accumulation de tout ce qui s'est passé durant ta vie. Et ne crois pas que c'est éteint. C'est parce que tu les as mis sous le paillasson qu'ils ne sont plus là. Et dès que quelqu'un te fait une réflexion ou dès que tu te sens en insécurité, eh ben, tu vois dans quel état tu es. C'est parce que ce n'est pas guéri à l'intérieur. Et il suffit d'aller chercher la petite fibre qui va bien, et ça, l'ennemi sait le faire. Il va chercher la petite fibre, et tout d'un coup, t'es plus maître de toi, tout d'un coup, t'es dans l'impulsivité, et tout d'un coup, t'es pas bien, et tu comprends pas, tu dis, Seigneur, tu sais, pourquoi je m'énerve encore comme ça, là? Ah. Et c'est pas des relations apaisées. C'est pas à ça qu'on arrive. Il faut nettoyer de façon à ce qu'il n'y ait plus de prise. Il faut plus que l'ennemi ait une prise sur toi. Si tu nettoies, si je nettoie la plaie là et que je suis guéri, mais tu peux toujours venir appuyer. Il n'y aura rien, hein, ça ne va pas marcher. Mais si la plaie est à vif et que l'autre il arrive et puis il met son doigt dedans, il dit t'as mal quand je fais ça? Ah ben là, je vais crier. Arrête ça. Mais oui. Vous comprenez? Il faut guérir. Ces problèmes personnels et intérieurs sont le terreau pour détruire les relations en amenant la division, les conflits, les querelles. C'est ce qu'on voit tout le temps. Vous voyez deux personnes où tout d'un coup tout allait bien, puis à un moment, il y a une phrase de trop, il y a une parole en trop, il y a un geste, il y a un ton en trop, et puis tout d'un coup, la conversation est partie en vrille. Alors que tout allait bien. Vous voyez? Et parce que, ben c'est pas, tant que ce n'est pas guéri, c'est un terreau. C'est-à-dire, c'est un endroit, c'est facile. Si jamais tu vas dans cette direction-là, tu ne connais pas l'histoire de l'autre, en fait. Tu ne sais pas tout ce qui lui est arrivé. Mais par maladresse, par inadvertance, sans vouloir, tu risques d'appuyer sur un endroit où c'est à vif. Et là, attention, tu vas voir en face de toi qui tu te... C'est plus la même personne que tu as en face de toi. Et ce n'est pas sans conséquence déjà pour nous-mêmes. À chaque fois que nous nous investissons affectivement dans une relation, nous créons un lien. C'est comme ça. On est fait comme ça. À chaque fois qu'on crée quelque chose avec quelqu'un, de l'affection, on s'entend bien, il y a des bonnes affinités, il va se passer un phénomène naturel qui est la création du lien. Il y a un lien qui se crée. Et quand il est amené à être brisé, ce lien, c'est notre âme qui se trouve déchirée. Et ça provoque une douleur terrible. Plus nous sommes proches de cette personne, plus la douleur sera intense. Vous voyez? Et ça, en même temps que je dis ça, je parle aux jeunes. Vous voyez, quand vous flirtez, quand vous créez du lien avec quelqu'un, ne croyez pas que c'est sans conséquence. Vous vous attachez à une personne et vous créez un lien. Il y a une façon de faire pour comprendre. Vous voyez, c'est deux feuilles qu'on vient coller l'une avec l'autre. Et quand le lien se déchire, c'est comme si chacun repart, on essaye de séparer les deux feuilles. Sauf qu'ils sont collés. Et donc, ça provoque un déchirement. Et c'est ça qui fait mal. C'est pour ça qu'on ne veut pas se séparer. Parce que ça fait trop mal. Et ouais. Mais c'est à nous, enfin les jeunes, je parle aux jeunes, parce que moi, c'est un peu trop tard. Et c'est aux jeunes de faire attention. De ne pas créer du lien aussi facilement que ça. Parce que vous mettez en danger. Parce que si tout d'un coup, vous apercevez que ça ne va pas avec cette personne-là, mais que ça fait plusieurs mois que vous êtes avec elle, ou même des fois des années, vous êtes mal. Vous avez créé du lien. Vous comprenez? C'est jamais anodin. Et là, je ne parle même pas de sexualité. Parce que c'est encore pire. Parce que si on a créé un lien sexuel, alors là, c'est encore une autre dimension. Comment faire pour amener à la lumière nos dysfonctionnements? Essayons d'être pratiques. La réponse réside dans ce que nous éprouvons au plus profond de nous-mêmes. Un malaise, de l'inconfort, de la souffrance. Un malaise, je ne suis pas bien dans ma vie, je ne suis pas bien. Quand quelqu'un me parle de cette manière-là, j'ai un problème. Quand on est trop directif avec moi, j'ai un problème. Quand on me parle de ça, j'ai un problème. Voilà. C'est à nous de faire attention à quel moment je ne suis pas bien. Pourquoi je ne suis pas bien? La tendance de l'être humain, c'est d'agir différemment. Quand il n'est pas bien, il ne cherche pas à comprendre pourquoi il n'est pas bien. Il met la faute sur l'autre. Il dit, mais comment il m'a parlé? Non, mais il est venu... Non, mais tu te rends compte? Il est venu me dire... Non, mais ça je ne peux pas le tolérer, ça. Ça, ça ne marche pas, ça. Et on va mettre la faute sur l'autre, c'est la faute de l'autre. Hein? C'est un peu l'histoire de... Le gars, il tape sa femme, et puis quand on vient lui dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, tu verrais comment elle m'a parlé. Ah non, mais elle en méritait une, hein, je t'assure. Il ne va pas se poser des questions sur pourquoi il tape. C'est quoi son problème de taper? L'autre peut ne pas être d'accord avec toi, mais taper, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Mais il ne verra pas son problème. Parce que lui, il dit non, mais c'est de sa faute. Et c'est toujours la faute de l'autre. Donc, réaliser ce qu'on éprouve, malaise, inconfort, souffrance, et ne pas accepter ça comme normal. C'est-à-dire, c'est pas normal que je sois mal. Il y a quelque chose derrière tout ça. Donc ça, c'est une façon de découvrir notre dysfonctionnement. Tant que cette dernière est supportable, tant que cette douleur, ce malaise est supportable, ben, on va rester dans la résistance. On ne va pas se remettre en question. Hein? Et je dis, c'est un petit peu comme la peur du dentiste. Ceux qui ont la phobie du dentiste, avant qu'ils aillent chez le dentiste, il va falloir qu'ils aient mal. Parce que tant que la douleur est supportable, on ne va pas chez le dentiste. Si je vais chez le dentiste, c'est que vraiment, je suis au bout du bout. Mais tant que j'ai mal, mais... dentiste, ça va aller. Hein? On supporte. Mais c'est un petit peu ça, là, notre malaise. C'est le désespoir confortable. Hein? Tant que je gère, ça va. C'est pas terrible, mais je gère. Par nature, entre changer et ne pas changer, l'être humain préfère ne pas changer. C'est un premier combat à mener avec nous-mêmes. Choisir de marcher sur le chemin de l'humilité. Vous voyez, il y a d'un côté l'orgueil et d'un côté l'humilité. Et Dieu nous demande de marcher sur un chemin d'humilité. Donc c'est la première clé, hein, c'est se dire oui, moi aussi, comme tout le monde, j'ai été touché par le péché et ce n'est pas dévalorisant. Ce n'est pas parce que j'ai été touché par le péché et donc qu'il y a des choses qui ne vont pas en moi que cela vient me dévaloriser. Vous comprenez ça? Au contraire, c'est une forme de sagesse. C'est une forme de sagesse où, Seigneur, ok, j'avais pas bien compris durant toutes ces années, mais aujourd'hui, Seigneur, je veux que tu viennes me guérir. Amen. Et on verra, on y va progressivement. Parce que vous voyez, ce que je vous dis là, tout ce qu'on va mettre, l'inventaire, c'est dans l'étape 4, donc on n'y est pas encore. Donc on y va mollo pour que vous compreniez le travail qu'il y a à faire. Mais l'étape 4 sera un peu plus compliquée parce que c'est pour ça que je vous prépare dès maintenant. L'étape 4, c'est un inventaire sur tout ça. Bien souvent, au lieu d'écouter notre souffrance, notre inconfort ou les reproches de nos proches sur nos défauts, nos mauvaises habitudes ou encore nos dépendances, nous préférons nier tout cela, le minimiser et encore rejeter la faute sur l'autre. C'est tellement plus facile. Le fait de ne pas accepter sa part de responsabilité va empêcher toute remise en question et la vie continue sans... aucune transformation et aucun changement. Résultat, je ne suis pas une personne épanouie et je reproduis sans cesse les blessures dans mes relations. Et le cercle vicieux continue. C'est alors que nos dépendances sont sollicitées. Là, on arrive à un autre niveau. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça, le malaise va tellement être grandissant qu'il va falloir calmer tout ça. Et c'est là que rentre en ligne de compte les dépendances. Les dépendances sont sollicitées à ce moment-là. Il faut soulager la souffrance que je ressens et qui est insupportable. Alors je me tourne vers mes dépendances parce qu'elles procurent du plaisir. C'est la base, à travers le cerveau qui lui va sécréter la dopamine, l'hormone du plaisir et du bien-être. Donc on a touché à des choses, du plaisir, c'est la base. Et il y a des plaisirs acceptables, il y a des plaisirs qui sont moins acceptables. Mais ce n'est pas grave. Le problème pour l'instant, c'est de se rendre compte que il y a des choses qui vont nous amener du plaisir. En soi, c'est pas mal. Sauf que le cerveau enregistre ces plaisirs-là. Hein, et il va sécréter de la dopamine. Et quand vous allez être mal, quand vous allez traverser un truc difficile, le cerveau, systématiquement, il va vous rappeler le chemin pour aller sécréter la dopamine. Donc, si vous commencez, je ne sais pas moi, on va dire manger par exemple. Hein, donc, vous mangez. C'est du plaisir. Pour la plupart de nous, c'est du plaisir de manger. Donc, manger un petit carré de chocolat, ça fait du bien. Bon, c'est du plaisir. Le cerveau, il a enregistré. Okay, là, vous êtes mal. Vous n'êtes pas bien. Hop, le cerveau, il dit, hey, tu te rappelles? Chocolat. Hop, chocolat. Petit carré de chocolat. Ah, je me sens mieux. Mais un carré, ça ne suffit plus. Oh, deux carrés, parce que là, quand même, c'est là, je mérite. Hein, c'est normal. Avec tout ce qu'on m'a fait, je mérite. Deux carrés. Et puis, deux carrés ne suffira pas. Il faudra la tablette. Hein, etc., etc. Donc, c'est pareil pour la bouffe. Et vous allez retrouver ça dans toutes les dépendances que vous allez créer. Et des dépendances, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Nous sommes des machines à créer les dépendances. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de plaisir. Prenez le sport. Le sport, pas mal le sport. Et d'abord, il faut faire du sport. Et le sport sécrète aussi la dopamine. Okay ? Donc, à un moment, vous allez courir, par exemple. Alors, il faut prendre l'entraînement, hein, parce que la dopamine, elle n'arrive pas tout de suite, c'est dommage, parce qu'on ferait juste ça, dopamine, oh, c'est bien, oh, ça m'a fait du bien. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut souffrir un petit peu, hein, il y a bien une demi-heure à souffrir quand même, pour commencer à sentir les effets de la dopamine. Okay ? Mais ça marche. Donc, le cerveau l'enregistre. Et d'une demi-heure, comme la dopamine ne va pas suffire, parce qu'on s'habitue à la dopamine, il faut un petit peu plus. Donc, une demi-heure, une heure. Pas de mal, tu vois. Après, avant, c'était le lundi. Puis là, ça ne va pas dans ma life. Donc, je passe au lundi et puis le mardi. Et puis aussi le mercredi. Mais quand vous avez une famille, quand vous avez des enfants, mais tout d'un coup, c'est le sport qui devient la priorité. Il n'y a plus le temps. Et puis, il dit, eh, chérie, je vais faire mon sport. Puis, tu as vu, hein, quand je reviens, comment je suis bien. Donc, va faire ton sport. Puis, au moins, quand il revient, il n'est pas énervé. Et puis, voilà, ça devient une dépendance. Et ça a des conséquences pour la famille. Mais on ne le voit pas. On voit que notre intérêt. Bon, et là, je suis gentil, hein, le sport. Bon, mais on pourrait dire l'alcool. On pourrait dire le zamal. On pourrait dire d'autres drogues. Il y en a tellement. Les réseaux sociaux. L'écran. La pornographie. La pornographie, on n'en parle pas. Et pourtant... Vous connaissez les statistiques de la pornographie ? Si je vous le dis, vous allez peut-être tomber raide. C'est 7 hommes sur 10. Vous comprenez ? 7 hommes sur 10 qui touchent à la porno. Et c'est pas fini le phénomène. Parce que là, on est en train de mettre en avant que les enfants qui touchent les écrans, donc qui ont Internet, si ça n'a pas été protégé, eh ben, ils commencent. Alors, l'âge baisse tous les ans. Hein, et là, on est arrivé entre 9 et 10 ans. Donc, 9 et 10 ans de porno à la récréation. Et là, c'est même pas dire « Ah, j'espère que mes enfants, ils vont pas voir ça. » Non, mais c'est même pas la peine de penser ça. Ça, c'est impossible. C'est plutôt prévenir. Mais croire que vos enfants ne vont pas toucher à la porno, c'est un rêve. C'est plus possible. C'est à la récréation, c'est les copains, c'est tout ça. Et à partir de 9-10 ans, on commence à voir la porno. Et donc, ça va sécréter, bah, même si au départ, ça peut être choquant pour certains. Mais d'autres vont commencer à s'y habituer, la plupart. Et puis, bah, quand ils vont avoir 20 ans, ils auront 10 ans de porno. Et je vous assure, si vous avez 10 ans de porno, bah, pour sortir de là, bah, il va falloir s'accrocher. Je peux vous le dire. Donc, vous voyez, et la porno est là, partout. Même les femmes. Ça aussi, c'est tabou. Mais même les femmes, dans une proportion moindre. Mais on voit que ça augmente. C'est des sujets qu'on ne parle pas, mais c'est une réalité. Donc, il faut soulager la souffrance que je ressens et qui est insupportable. Alors, je me tourne vers les dépendances parce qu'elles procurent du plaisir à travers le cerveau qui sécrète la dopamine, l'hormone du plaisir et du bien-être. C'est dans ces moments d'excitation et d'effervescence que nous nous sentons le mieux. Lorsque, comme par magie, nos problèmes disparaissent le temps que dure l'expérience. Les plaisirs de ces moments nous poussent à vouloir répéter l'expérience pour ressentir à nouveau ce bien-être. Mais malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'être humain s'habitue comme à sa dose, on va dire, s'habitue à sa dose, et donc au bout d'un moment, c'est jamais assez fort. Et donc il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est là le piège, c'est là où l'être humain sombre, tu vois. Et on rentre dans un cercle vicieux, souffrance, dysfonctionnement, donc besoin d'engourdir, il me faut du plaisir, du bien-être, okay, et je retrouve mon confort désespérant, désespoir fataliste, mal dans sa peau, blessure, et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens ? Et bien, par rapport à toutes ces dépendances, je ressens de la honte, de la culpabilité, de la peur, des relations dysfonctionnelles. Et là où je voulais des relations, je voulais du bien-être, je voulais être aimé, je voulais me sentir aimé, et tout ça, ben je retombe dans la souffrance et les dysfonctionnements. Et le cercle continue. Voilà. Et on est pris là-dedans. Tout le monde est dépendant. Tant qu'il n'est pas dépendant de Dieu. Le psychiatre Gérald May, dans son livre Addiction and Grace, considère que nous sommes tous dépendants dans le sens plein du mot. On est tous dépendants de quelque chose. C'est notre corps qui nous a fabriqués comme ça.
passer du plaisir à la dépendance. En fait, la dépendance se manifeste à chaque fois qu'une personne se sent obligée de faire quelque chose qui est contraire à ce qu'elle désire réellement. Là, la dépendance arrive à son sommet. C'est-à-dire que tu n'as pas envie de le faire, tu sais que ce n'est pas bien, tu sais que ça nuit à ta santé, mais il y a une puissance qui est plus forte que toi et qui t'amène à le faire, malgré que tu ne voulais pas le faire. Gérard May l'a décrit comme un état de compulsion, d'obsession, de préoccupation qui asservit la volonté et le désir. Tu n'es plus maître du tout de ta vie. Dès que tu vas souffrir, eh ben, le cerveau va te ramener à ta dépendance. La compulsion fait référence à nos comportements, à ce que nous faisons et voudrions cesser de faire sans y parvenir. L'obsession se manifeste par la présence récurrente de pensées contraignantes. Ça devient obsessionnel. C'est-à-dire que même si tu commences à dire « non, 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 je ne veux pas, non, 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 je ne veux pas », à partir du moment où tu as commencé à y penser, la pensée va prendre le dessus. Tu vois ? Tu ne veux pas. Non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas ça. Non, non, je ne veux pas manger ça. J'ai assez là. Ça suffit. Ah, puis c'est dans la tête. Et puis, tu vois, le plaisir va prendre le dessus. On va dire, allez, un tout petit bout. Pas beaucoup, un tout petit bout. Allez, allez. Et là, tu vas charnellement, tu dis, non, non, je ne veux pas. Non, non, je ne veux pas. Bon, ça va durer 10 minutes ton combat. Mais tu vas finir par ouvrir la porte du frigo. Je te le dis. T'inquiète pas. Le combat est déjà perdu d'avance. L'obsession se manifeste donc par la présence récurrente de pensées contraignantes. Ces dernières, que nous ne parvenons pas à chasser, nous poussent à la longue à avoir des comportements qui nous épuisent et nous abrutissent. Chemin de la guérison, nous avons admis que nous étions impuissants devant notre condition et que nous n'avons pas la maîtrise de notre vie. On commence par le « nous ». D'accord ? Le « nous » ici fait appel à l'humilité, à notre besoin d'aller chercher de l'aide, l'aide d'une autre personne que le Saint-Esprit va t'inspirer. Nous retrouvons ici une des missions de l'Église, un ensemble de croyants au service des uns des autres. Amen. Et ça, c'est important de penser qu'il faut que je chasse la honte. Il faut que j'enlève la honte. Et dès aujourd'hui, je vous dis, pensez à une personne qui pourrait vous aider. Commencez à y penser. Commencez à penser, demandez au Saint-Esprit de mettre sur votre chemin, dans vos pensées, quelqu'un qui mériterait votre confiance, à qui vous pourriez confier des choses, qui n'irait pas répéter ça à toute l'Église, mais qui garderait ça pour elle et qui pourrait vous aider. Commencez à réfléchir. La plupart des gens aimeraient être libérés de ce qui les asservit, délivrés de ce qui les contrôle et les obsède, dans le secret et dans la solitude. Mais derrière cela se cache, bien entendu, la honte et la peur du rejet et du jugement. La guérison et le rétablissement de notre vie se produit grâce au soutien des autres. Malheur à l'homme seul, à celui qui n'a personne. Ecclésiaste nous rappelle, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est tout seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Il est bon de pouvoir avoir un frère, si on est frère, une sœur, si on est sœur, sur qui on peut compter. C'est important. C'est la force et le soutien de tout qui supplie à nos lacunes personnelles. C'est aussi le partage avec les autres qui nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas seuls à vivre ces situations. Cela nous amène à vivre ce qu'on appelle la communion de la souffrance. En fait, beaucoup de gens souffrent, mais chacun individuellement dans son coin. Et quand on vient au vase restauré, par exemple, j'aime bien mettre en avant que ce qui t'est arrivé, ce n'est pas exceptionnel. Ce n'est pas qu'à toi que c'est arrivé. C'est arrivé à tout le monde. D'une manière différente, mais tout le monde, à cause du péché, a été atteint. Et c'est pour enlever une certaine culpabilité, une certaine honte que l'ennemi essaye de mettre sur toi, un poids qu'il met sur toi pour te faire croire que c'est à toi que c'est arrivé, ça. C'est parce que tu n'es pas capable. C'est parce que tu n'es pas aimable. C'est parce que tu n'as pas de valeur. C'est pour ça que c'est arrivé à toi. L'ennemi essaye de nous enfermer dans une identité qui voudrait être la somme de tout ce qui nous est arrivé. Et ce qui nous est arrivé, eh ben, c'est bien de notre faute et on l'a cherché. Et ça, c'est faux, archi faux, et il faut le combattre. Parce que sinon, on va rester dans notre coin, parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'il fait l'ennemi ? C'est qu'il propage en nous, tout doucement, ce qu'on appelle la honte. La honte, c'est un sentiment que nous avons tous.
mais qui est invisible et qui appartient à la construction de notre identité. Et tant qu'on n'a pas mis les choses à jour, on ne savait même pas que c'était de la honte. Mais la honte nous tient. Tant qu'on n'est pas libéré de la honte nous tient, elle nous empêche d'être nous-mêmes, elle nous empêche de nous affirmer. La honte nous tient prisonnière de ce que l'on pense de nous. Et donc, on verra un peu plus loin la honte en détail, parce que cette honte-là, elle doit être ramenée à juste ce qu'elle est, une émotion, mais pas déterminer qui nous sommes. Nous sommes un corps dépendant des uns des autres, et l'Église, d'un point de vue pastoral, c'est un hôpital spirituel. Il n'y a pas d'Église parfaite. L'Église est composée de chrétiens que la parole de Dieu appelle des pierres vivantes. Et ces pierres vivantes sont tous des êtres imparfaits, comme vous et moi, à l'image de chacun d'entre nous. Mais dans notre imperfection, nous essayons de nous soutenir et d'être cette famille que Jésus a voulu remplie de miséricorde. La clé ici, c'est la miséricorde. C'est comprendre que je ne suis pas meilleur que l'autre, même si l'autre n'est pas meilleur que moi. Mais que dans cette conception-là, j'ai besoin de miséricorde. Parce qu'un jour, c'est un tel qui va faire une erreur, un autre jour, c'est moi qui va faire une erreur. Et si on n'a pas une église de miséricorde, alors on va se juger et on va se mordre entre nous. Et on va se tuer. On a besoin de comprendre que la miséricorde, ce n'est pas une option. C'est nécessaire. On doit se pardonner. On doit apprendre à se pardonner. Parce que, on va le voir tout à l'heure dans le verset clé de la miséricorde, c'est que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. On est tellement fort pour juger. On est tellement fort pour mettre la faute sur l'autre, tu vois. Mais le jour où ça t'arrive, tu aimerais bien aussi qu'on te fasse miséricorde. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde, c'est l'ingrédient indispensable à de bonnes relations solides. La miséricorde permet de relativiser la blessure occasionnée par l'autre. Pourquoi ? Parce que nous sommes capables d'en faire autant si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Hein ? Il suffit de lire l'histoire de Paul à Rome, et vous comprenez tout. Paul, à la fin de sa vie, il est honnête et il fait le constat suivant. Le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve à le faire. Donc si on est honnête un instant, nous avons tous la capacité de faire du mal à quelqu'un. Volontairement, certainement pas. À moins qu'on soit proche de l'hôpital psychiatrique. Mais on fera du mal sans le vouloir. Mais on blessera les gens sans le vouloir. Donc s'il n'y a pas de miséricorde, alors qu'on a blessé quelqu'un sans le vouloir, il n'y a plus de solution. Vous comprenez ? La miséricorde, elle fait partie de la vie du chrétien. Nous ne sommes pas parfaits, nous sommes tous imparfaits, nous allons tous faire des erreurs. Et si on veut continuer à aimer, il nous faut être remplis de miséricorde. Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Vous comprenez ? Celui qui est dans ses certitudes, celui qui dit « Ah non, t'as vu ce qu'elle a fait ? Ah non !» Il est en train de juger et il sera jugé de la même manière. Et le jour où cette personne-là va chuter, comment elle va se relever ? C'est compliqué. Et le deuxième verset que j'aime bien mettre en avant pour cette miséricorde, c'est « Ressembler à Jésus ». Jésus qui est à la croix, qui souffre, qui n'a rien fait. Qui est dans le complet injustice. Il y a une injustice complète avec Jésus. Il est rejeté, il est abandonné par ses disciples, il subit l'outrage, il est humilié, il subit les crachats. En fait, il rassemble toutes les blessures humaines. Et là, sa dernière pensée, c'est surtout que son père n'en veuille pas. Pardonne-leur. Pardonne-leur, père. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez ? Ils ne savent pas. Et c'est vrai. Et c'est vrai, spirituellement, quand un frère te fait du mal, tu peux dire à 99% vers 99% que il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Oui. Parce que, pensez autrement. Si vous croyez qu'il sait ce qu'il fait, qu'il vous fait du mal sciemment, il n'a pas sa place dans l'église. Je ne sais pas ce qu'il fait ici dans l'église. C'est impossible. Il y a un gros, 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 gros problème. Non. On blesse les gens, mais involontairement. On blesse les gens par inadvertance. On blesse les gens parce qu'on a eu une parole qui a dépassé notre pensée. On blesse les gens parce qu'on est encore blessé. Ouais. On a besoin de miséricorde. Père, pardonne-leur. Père, pardonne mon frère. Père, pardonne ma sœur. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Et oui, parce que nous aussi, ça va nous arriver. Hein? Et on va se pardonner aussi parce qu'on n'est pas parfait. Notre décision d'aimer n'est pas liée à l'attitude de l'autre. Elle est liée à notre attachement à Jésus. Aimer, quand nous ne sommes pas blessés, est relativement aisé. Mais quand c'est quand la blessure se présente à nous et qu'elle nous fait souffrir, que le test de l'appartenant à Christ se révèle à nous. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux plus te ressembler. Ok ? Mais si l'épreuve arrive, tu l'acceptes l'épreuve ou pas ? Qu'est-ce qu'il a fait Christ à la croix ? Il a accepté l'épreuve. Le test était là. Mais nous, quand on dit, attention à nos prières, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux te ressembler. Seigneur, Seigneur. Et le test arrive. Et là, on n'est plus d'accord. Ah, Seigneur, tu me demandes d'aimer la personne qui vient de me faire mal. Ah, mais Seigneur. Mais oui, tu m'as demandé. Tu m'as dit, tu veux me ressembler. Le test est là. Simple. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses à Jésus à la croix et tu dis, ok, Seigneur, je peux souffrir aussi parce que tu vas me rendre capable. Ok. Je vais m'expliquer avec la personne. Je vais aller la voir. On va s'expliquer. On va se demander pardon. Et je vais continuer à aimer. Vous voyez ? On est loin de la religiosité. Hein ? On est dans l'authenticité. On est dans notre relation avec Dieu. Et chacun a besoin de grandir. Amen. Il faut bien, de temps en temps, valider notre croissance. Par un petit test. Gentil. Est-ce que tu seras déçu de tes frères et sœurs ? La réponse est oui. Est-ce que tu seras déçu de tes pasteurs ? La réponse est oui. Est-ce que tu seras déçu de ceux en qui tu as investi beaucoup d'amour et d'affection ? La réponse est oui. Est-ce que tu seras déçu de toi-même ? La réponse est oui. Mais est-ce que cela justifie que tu ne dois plus aimer ? La réponse est non. Vous voyez ce slide-là, c'est la réalité de notre vie spirituelle. Si tu ne comprends pas ça, ben tu es à côté de la plaque et tu vas aller de déconvenu en déconvenu. L'amour ne dépend pas de la réaction des autres. L'amour dépend de ma décision. J'ai décidé d'aimer. Amen. Mettant de côté notre orgueil et notre amour propre, il est fondamental de briser cet isolement psychologique et émotionnel et de trouver un partenaire pour notre rétablissement. Ce partenaire doit être quelqu'un qui sera là pour nous comme un véritable ami quand nous en aurons besoin. Nous avons admis que nous étions impuissants devant notre condition et que nous n'avons pas la maîtrise de notre vie. Pour beaucoup, il est urgent d'avouer à nous-mêmes qu'il y a un véritable besoin de changement, de transformation, une nouvelle saison. Qui annonce délivrance, bien-être, temps de restauration pour soi-même. Prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin des autres. Amen. Je veux être guéri pour guérir les autres. Mais je ne pourrai pas guérir les autres si je ne suis pas guéri. Donc il y a ce besoin-là d'aller toujours plus loin dans la restauration pour vraiment être utile dans l'œuvre de Dieu. Admettre, reconnaître, c'est une étape fondamentale. Un pas que l'on franchit pour passer à autre chose. C'est la recherche éclairée de la vérité à notre égard.
Il s'agit d'une conviction intime, une prise de conscience profonde de notre état et de notre condition. Réaliser les domaines dans lesquels nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons admis que nous étions impuissants. Ça, c'est très important. Reconnaître que nous n'avons pas la capacité de résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Et beaucoup, et pour beaucoup, à cause de notre culture, quelque chose de difficile à admettre dans cette société-là, sans se sentir diminué, dévalorisé, avec une certaine perte de contrôle de sa vie. On est victime de cette mentalité de la société, où tout est possible pour quelqu'un, où tu peux toujours t'en sortir par toi-même. C'est une erreur. Le paradoxe de cette première étape vient du fait que reconnaître notre impuissance devient un puissant levier vers le rétablissement. Elle crée cette ouverture vers de nouvelles solutions et de nouvelles possibilités. Notre capacité à être transformée provient de la reconnaissance de notre incapacité à le faire par nous-mêmes. Seigneur, j'ai besoin de toi.
Amen.
Amen. Si on croit qu'on peut s'en sortir par nous-mêmes, alors on n'a pas besoin de Dieu. Il faut d'abord reconnaître notre impuissance, notre incapacité pour dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Admettre notre impuissance à vouloir contrôler notre vie sera donc le premier pas pour gagner en puissance et ouvrir un chemin de possibilités pour guérir et être rétabli. Ce n'est plus moi qui va vivre, mais c'est Christ qui va vivre en moi. C'est ça le but final. Le but final, c'est que ma chair diminue de plus en plus et que son esprit me dirige de plus en plus. On pourrait dire autrement, on pourrait dire c'est le fruit de l'esprit qui petit à petit va arriver à maturité en moi. Nous avons admis que nous étions impuissants devant notre condition. Notre condition, c'est toute notre vie. C'est les conséquences de notre héritage et des expériences qui ont traversé notre vie. Elle se manifeste dans notre gestion de nos émotions, notre façon de penser, de concevoir la vie, notre façon de traiter les autres. Là aussi, on revient à ce que j'ai dit, réaliser qui nous sommes, ce qu'on a subi, notre histoire. Et croyez-moi, il n'y en a pas un qui peut dire aujourd'hui, moi j'ai eu une histoire parfaite. Ça n'existe pas, c'est impossible. Donc on a tous traversé des choses difficiles. Et ces choses difficiles-là nous conduisent aujourd'hui à réagir comme on réagit. À voir ce que j'appelle le pilote automatique. On a appris à se comporter d'une certaine manière. Et si on ne fait pas un stop, et si on ne débranche pas le pilote automatique, alors c'est le pilote automatique qui conduit pour nous. Et on est appelé à réagir de la même façon, la même impulsivité, la même colère, toujours pareil parce qu'on est encore blessé et on réagit par rapport à nos blessures. Le problème dans la vie n'est pas d'avoir des problèmes, parce que tout le monde en a. Le défi consiste plutôt à les découvrir et à les résoudre avec l'aide de Dieu. La guérison et le rétablissement, qu'ils soient sur le plan spirituel, émotionnel, relationnel, débutent par une pleine reconnaissance de notre condition. Il faut être malade pour être soigné. Il faut être malade pour être soigné. Si on estime qu'on n'est pas malade, alors on ne peut pas être guéri. Parce qu'il n'y a rien à guérir. Enfin, croit-on. Voici quelques sujets qui vous aideront à méditer sur votre condition. Avoir des peurs, des insécurités profondes, avoir de la colère, de l'amertume, du ressentiment envers les êtres humains, tel ou tel être humain par rapport à ce qu'il m'a fait. Avoir de l'envie, de la jalousie maladive, avoir du contrôle excessif, vouloir contrôler tout son environnement, avoir des comportements incontrôlables, avoir des conflits à répétition, avoir des relations amoureuses toxiques, avoir beaucoup de tristesse, de la déprime sans raison valable, être rapidement découragé, être de nature pessimiste, avoir une mauvaise estime de soi, etc., etc., etc. Nous pourrions compléter cette liste indéfiniment. Néanmoins, au fur et à mesure que vous en prendrez conscience et accepterez la réalité de votre condition, vous pourrez partir à la recherche de solutions. Le principe est simple. Sans la reconnaissance de notre condition, de nos problèmes, pas de solution possible. Nous avons admis que nous étions impuissants devant notre condition et que nous n'avons pas la maîtrise de notre vie. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce que je suis vraiment honnête lorsque je regarde à ma vie et à ma condition? Est-ce que je fais preuve d'ouverture de soi ou est-ce que je suis toujours en train de me renfermer? Est-ce que je veux vraiment m'en sortir ou prolonger indéfiniment mes hésitations pour trouver des solutions. Au fur et à mesure qu'une personne prend conscience de ses difficultés, elle se rend compte à quel point sa vie peut être en désordre. Elle a beau se battre, elle n'y arrive pas. La clé, à ce moment-là, ne réside pas dans les efforts par moi-même à changer mes conditions extérieures à moi ou dans mon habilité à réaménager ma vie, mais plutôt dans mon désir de changer moi-même en profondeur. Écoutez bien ça, rien de l'extérieur ne pourra venir combler notre vide intérieur. Tant qu'on n'a pas réalisé qu'on est mal dans notre peau, qu'on a des choses à régler, qu'il y a des choses qui sont restées en ruine dans notre vie, il ne faut pas penser que des éléments extérieurs vont venir guérir tout ça. Du style « Ah, si j'avais !»« Ah, si j'étais !»« Ah, si et si et si !»« Ah, si j'avais !» C'est faux. Le problème, il est à l'intérieur de nous. Tu peux même partir en métropole si ça te dit. Mais tu emmèneras le problème avec toi parce qu'il est à l'intérieur de toi. Il faut régler le problème et le problème, il est à l'intérieur de nous. N'oublions pas que plus que tout, nos conditions extérieures procèdent de notre état intérieur. Et que la qualité de notre vie est le produit de la qualité de notre personne. L'état de notre vie s'améliore au fur et à mesure que le changement se produit à l'intérieur de nous. C'est de notre cœur que tout part. Tout vient de notre cœur. Si le cœur n'est pas nettoyé, si le cœur n'est pas pur, alors tu pourras faire tout ce que tu veux, tes problèmes ne se résoudront pas. Nous sommes entrés dans l'étape 1 qui constitue le point de départ d'un processus vers le changement. C'est la borne première sur le chemin de la transformation et de la guérison intérieure. Elle nous place devant le défi de la reconnaissance de nos faiblesses et de notre impuissance. C'est le début d'une marche dans l'humilité. Admettre notre impuissance n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe d'honnêteté, de vérité, le début de la sagesse pour Dieu. La personne qui reconnaît sa souffrance a compris qu'elle avait un problème, et c'est cette reconnaissance qui va lui sauver l'existence et l'amener sur le chemin du rétablissement. La créature est appelée à se reconnecter avec son Créateur. Dieu veut venir habiter, régner en toi, reprendre sa place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Tes choix, tes décisions doivent désormais être dirigés en fonction de Dieu et non plus en fonction des hommes. Amen. Il y a cette liberté à aller chercher que maintenant, ce n'est plus le regard des hommes qui compte. Ce n'est plus... Alors, les hommes avec un grand H, hein, comprenez bien. Ce n'est plus ce qu'ils pensent de toi qui est important. Ce n'est plus ce qu'ils vont dire sur toi qui est important. Mais c'est ce que Dieu dit sur toi qui est important. Le changement de paradigme, il est là. Le changement de narratif, l'histoire de toi, ton histoire, elle commence là. Maintenant que tu lui as donné sa vie, ta vie, pardon. Maintenant que tu comprends qu'il y a ce chemin où Dieu va t'amener à être ce que tu as toujours été, mais que le péché a déformé. Dieu veut te reformer. Et c'est ce narratif que tu vas pouvoir maintenant mettre dans ta vie. Et donc, qu'importe ce que disent les hommes, mais pas de manière condescendante, c'est surtout que ce qu'ils vont dire n'a plus le même poids pour toi. Parce que c'est ce que Dieu dit qui compte. C'est pas ce que les hommes vont te reprocher. Les hommes te reprocheront toujours des choses, puisque c'est la nature humaine, elle est comme ça. Mais tu ne vas plus construire ta vie, tu ne vas plus définir ton identité par rapport aux autres. Tu vas définir ton identité par rapport à ta vie en Christ. Une vie d'acceptation. Une vie où tu es aimé pour ce que tu es. Tu n'as plus besoin de faire. Tu n'as plus besoin de t'épuiser pour plaire aux hommes. Tu as juste besoin d'être en Christ. Quelle liberté. Quel repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner du repos. Prenez mon joug. Venez avec moi. Le joug. Prenez le joug. Vous savez, c'est cet assemblage qui rassemble les bœufs. Eh bien, c'est toi et Jésus. Prends ce joug-là. Mon joug est léger. Et Jésus va porter avec toi. Relâche. Relâche toute ta misère. Relâche tout le narratif que tu t'es fait sur ta vie. Relâche tout ce qu'on a dit sur toi. Relâche tout ça. Et vois quelle nouvelle créature tu es devenue aujourd'hui. Et n'en veux pas aux hommes. Ils sont comme toi. Ils sont imparfaits. Fais la paix avec les hommes. Laisse-les parler quand ça part mal. C'est pas grave. Ils ne définissent pas qui tu es. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Et surtout, tu ne leur donnes plus ce pouvoir-là. Tu donnes ce pouvoir-là à Dieu. Amen. Le cercle vertueux maintenant, c'est depuis ta nouvelle naissance, depuis que tu as donné ta vie à Dieu, tu es branché à la source de l'amour de Dieu. Tu as cette communion intime qui vient guérir ton intérieur. L'amour de Dieu vient guérir toutes tes blessures intérieures. Et pour toi, c'est des nouvelles possibilités pour ta vie. Et là, ça conduit vers des relations harmonieuses, la liberté, l'épanouissement. C'est un cercle vertueux où cette vie avec Dieu t'amène à l'épanouissement. Le défi, lâcher prise. Lâche prise avec tout ce que tu as été jusqu'à maintenant. Lâche prise avec tes conceptions. Lâche prise avec cette identité qui est venue de ce monde. Lâche prise. Le mot-clé, admets. Admets maintenant que tu as besoin de Dieu. Reconnais que tu as des problèmes dans ta vie qui n'ont jamais été résolus. Prends conscience de cette vie qui t'attend avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors, le beau challenge qui nous attend sur cette première borne qui est posée. Alors maintenant, vous avez le questionnaire, hein, le questionnaire qui est là pour vous aider à méditer à tout ce qu'on a dit depuis maintenant 3 soirées. C'est toujours le même questionnaire parce que c'est le questionnaire de l'étape 1. D'accord ? Donc, passez du temps, vous avez un cahier avec vous et voilà, discutez avec le Saint-Esprit. Es-tu passionné pour Jésus ? Est-ce que tu as cette passion au fond de ton cœur ? Ou est-ce que tu as besoin de retrouver cette passion et tout ce que tu entends, ça vient te redynamiser comme une envie d'avoir cette relation avec lui. De quitter la religiosité et de rentrer dans cette relation intime avec lui. Passionné, l'ambition de devenir son disciple, de changer, d'être transformé afin d'être utile à son royaume. Est-ce que tu considères que tu es une personne enseignable ? Est-ce qu'on peut changer les choses ? Est-ce que tu peux changer de conception ? Est-ce que tu peux changer de narratif ? Est-ce que tu es prêt à te remettre en question ? Prends un moment pour décrire l'état général de ta vie. Est-ce que certaines personnes de ton entourage ont tenté de te dire que quelque chose n'allait pas avec toi ? Et comment tu as réagi ? Comment ils ont essayé de te le dire ? De ton côté, est-ce que tu reconnais qu'il y a des dysfonctionnements dans ta vie ? Est-ce que tu as été blessé dans ta vie ? Si oui, quelles sont les émotions que tu as ressenties ? Est-ce que tu as ressenti de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de l'injustice ? Et est-ce que surtout, est-ce que ces blessures-là sont encore là, présentes dans ta vie ? Est-ce que les problèmes ne sont pas réglés ? Est-ce qu'il y a dans ta vie des relations en mauvais état avec les personnes qui ont traversé ta vie ou celles qui sont présentes aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des conflits qui persistent ? As-tu une bonne estime de toi ? Dans ta vie en général, est-ce que tu as beaucoup d'attentes envers tes proches ? Indique quelques exemples d'attentes. Est-ce que dans ta vie, tu t'es découvert une ou plusieurs addictions ? Tout ça, c'est entre toi et le Seigneur. Tout ça, c'est entre toi et le Saint-Esprit. Mais si tu veux grandir, mets tout ça à jour. Mets tout ça à jour de façon à pouvoir, au fur et à mesure des étapes, présenter tout ça au Seigneur. Amen. Amen, amen, amen.